Bonjour Geneviève Forazzo.
Bonjour.
Est-ce que vous avez digéré la défaite de dimanche dernier aux élections européennes?
Je pense qu'un Front National placé aussi haut et une telle abstention surtout, et puis un vote des jeunes qui ont voté, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas voté, mais le vote important des jeunes vers le Front National, c'est pas quelque chose qu'on digère, c'est quelque chose qui doit être compris, analysé, et on doit prendre des mesures pour éviter que ça ne se reproduise.
Dans son message de lundi soir, quand vous avez entendu le président de la République, vous avez l'impression qu'il a entendu et compris le message des électeurs?
Je pense même que nous l'avions anticipé, puisque nous savions que cette élection n'allait pas être une bonne élection. Mais le Front National a atteint un niveau qui, tout de même, nous a alertés. Il y a un manque de confiance, je pense qu'il faut le dire, dans l'ensemble des partis politiques institutionnalisés. Ce manque de confiance, il faut le combattre par l'action, par les résultats, en particulier les résultats pour l'emploi. Il faut lutter contre le décrochage des jeunes. Moi, je ne peux pas ne pas mettre en correspondance le fait que la moyenne des jeunes au chômage en Europe est de 25%, et ce vote des jeunes, des jeunes qui ont décroché, des jeunes qui ont des difficultés en faveur du Front National, qui est un vote finalement de désespoir. Ce vote-là, nous pouvons l'infléchir, nous pouvons le retourner si nous avons des résultats en matière d'insertion. Et là, l'Europe doit nous aider davantage.
Mais le chômage continue à augmenter.
Oui, mais
en avril, 14 800 demandeurs d'emploi de plus. Pour l'instant, ça reste le grand échec de François Hollande.
C'est pas l'échec de François Hollande, c'est l'échec.
Par rapport à ses engagements, si j'inverserais la courbe du chômage.
C'est l'échec des deux quinquennats qui nous ont précédés et qui ont vu disparaître 750 000 emplois industriels. C'est un chômage qui a commencé à exploser en 2008. Et puis c'est un problème européen. Hormis quelques pays dont l'Allemagne, tous les pays européens, je l'ai dit en particulier pour les jeunes, ont un chômage qui est beaucoup trop élevé. Donc il faut une solution européenne. L'Europe, au lieu de s'occuper de la courbure des concombres ou des bananes, aurait quand même intérêt à s'intéresser davantage à l'avenir, à la recherche, à la qualification des jeunes, à la lutte contre le décrochage. Et je crois que c'est ça que l'Europe doit faire. C'est cette Europe-là que l'on veut, cette Europe-là qu'il faut davantage construire.
Et c'est qui l'Europe de la courbure des concombres? Parce qu'on entend sans cesse ce discours, oui, mais l'Europe n'est pas responsable de tout, et l'Europe c'est nous. Alors, qui perd son temps sur le calibrage des concombres ou des bananes?
D'abord, je crois qu'on a tous une responsabilité sur l'image qu'on donne de l'Europe, et moi-même, là, je viens de le faire d'ailleurs. Il n'y a pas eu assez de pédagogie sur l'Europe, son évolution, pourquoi elle avait été créée. J'ai vu une émission formidable sur une grande chaîne publique le lendemain des élections. Bravo, mais c'était trop tard. C'est avant qu'il fallait le faire. On a tous tendance, les médias comme les politiques de droite comme de gauche, à utiliser l'Europe comme tête de turc. Quand quelque chose ne va pas, c'est la norme européenne, c'est la bureaucratie, l'eurocratie.
Et qui les fabrique ces normes? C'est vous, enfin c'est l'ensemble.
En tout cas, elles sont adoptées. Donc elles sont adoptées et chacun y contribue. Donc il faut absolument revenir à une Europe de projet, à une Europe de priorité politique.
Qu'elle se concentre sur l'essentiel et qu'elle se retire là où elle n'est pas nécessaire, comme a dit François Hollande.
Absolument, et qu'elle en arrête avec la complexité. L'Europe ne doit pas être l'Europe de la complexité, elle doit être l'Europe lisible par les citoyens. Pour ça, elle doit annoncer des objectifs clairs. Les objectifs, ça a été le cas pour la PAC, par exemple. C'est le cas maintenant pour la recherche, même si on n'en parle pas suffisamment, parce qu'on a toujours du mal à avoir une vision pour l'avenir en Europe. N'empêche qu'on a augmenté les programmes Erasmus, mobilité étudiante de 40%, on a augmenté les projets recherche de 30%. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on n'existera plus dans le monde si on n'investit pas dans l'avenir. Et la recherche, l'éducation des jeunes, c'est ça aussi qui donne de l'espoir et qui évite d'avoir des votes qui sont plutôt des votes de rejet, des votes, j'allais dire, presque de l'affect, quand la situation vous angoisse.
Vous étiez lundi dernier au Conseil européen, donc juste au lendemain des résultats des élections européennes. Comment ont réagi vos collègues autour de vous? Et vous, comment vous vous sentiez? Gênée, honteuse, mal à l'aise?
Non, la démocratie s'est exprimée avec une énorme abstention. Et un vote,
moins
encore une fois,
que ce qui a été annoncé.
Et un vote, tout de même.
Oui, mais moins, 3 points de moins que ce qu'on
a fait.
Oui, c'est beaucoup, c'est vrai.
Quand on est à autour de 40% de participation, on peut dire qu'il y a quand même une grosse abstention. Non, j'ai pas à avoir honte. Le vote s'est exprimé. Il faut comprendre ce qu'il a exprimé. Je pense qu'il a exprimé surtout beaucoup de désarroi. La preuve, c'est que dans le même temps, on a un film qui fait l'apologie finalement avec humour du métissage et qui rencontre un succès extraordinaire.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
C'est le paradoxe français, qui est un peuple qui consomme beaucoup d'anxiolytiques, mais qui fait beaucoup d'enfants. Donc il y a toujours ce paradoxe. Donc il faut tirer vers le haut, pour tirer vers le haut.
Il faut connaître vos Européens, alors ils vous ont dit quoi ?
Il faut redonner de l'espoir, redonner une vision. Eh ben, vous voulez que je vous dise, ils étaient très amicaux et presque embêtés pour la France. Ça ne correspond pas à l'image qu'ils se font de la France, qu'ils ont de la France. Et ils savent que la France, ça n'est pas ce vote qui était encore une fois un vote qui exprimait un désarroi à un moment donné et auquel il faut absolument répondre.
Ouais. Sondage ce matin dans le Figaro magazine, 81% des sympathisants socialistes souhaitent qu'il y ait une primaire pour l'élection de 2017. Est-ce que vous êtes dans cette majorité de 80%?
Moi, je suis dans l'objectif de ce quinquennat. Là, vous parlez de...
Mais s'il y a une primaire, des prochaines, ça arrive vite.
Vous parlez des prochaines présidentielles. Enfin, il y a encore 3 ans, tout de même.
Oui, mais la primaire, ça se travaille, ça se prépare.
Il y a encore 3 ans. Oui, je pense que là, on doit se concentrer quand même sur l'essentiel. Pour le coup, les résultats des dernières élections nous amènent à nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la solidarité. Manuel Valls l'a fait en exonérant d'impôts les ménages les plus en défi, les plus modestes. Et nous devons le faire en pensant toujours
la question, c'est de savoir
emploi.
Si François Hollande a une légitimité automatique à être le prochain candidat du Parti Socialiste en 2017.
Ici et maintenant, il est président de la République, on a des objectifs à atteindre, on verra pour 2017. Il peut se passer encore beaucoup de choses, vous savez, dans un quinquennat, on a vu des retournements en politique. Combien de fois a-t-on dit que tel ou tel homme politique était fini? Combien de fois l'avons-nous vu?
François Hollande lui-même, d'ailleurs, avant la
primaire. Combien de fois nous l'avons vu ressurgir? Souvenez-vous que François Hollande recueillait, je crois, 5%.
3%, monsieur 3%, c'était son surnom.
Voilà, ou 5%, enfin bref. Donc, soyons prudents en matière de prévision, mais essayons en revanche d'avoir une bonne vision pour l'avenir et de la faire partager avec le plus grand nombre. C'est ça.
Est-ce que vous n'avez aucun doute sur le fait que le gouvernement obtiendra une majorité au Parlement pour le pacte de responsabilité?
Tout dépend de l'adhésion et de l'enthousiasme que nous allons susciter. Je crois qu'il faut en finir avec nous-mêmes, au Parti Socialiste, avec le bashing permanent. Oui. Il y a un moment où on doit être solidaire, on doit faire le PAC, parce qu'on le doit aux Français, on le doit à l'intérêt général. C'est ça tout de même l'essentiel. La France est un pays qui a énormément d'atouts. On a les meilleurs chercheurs du monde. On a une jeunesse enthousiaste qui se mobilise quand il s'agit des droits de l'homme, qui se mobilise contre Le Pen, et en même temps, on a une jeunesse qui reste au bord du chemin. C'est celle-là qu'il faut entraîner avec nous et à qui il faut donner des réponses. Donc je pense qu'on a des priorités qui font que, franchement, les querelles intestines, ça suffit.
Vous partez à Londres, là, dans quelques instants, pour des rencontres consacrées aux grands projets de coopération internationale sur la recherche et l'innovation. Quels sont les dossiers les plus immédiats?
Alors plus exactement, je vais au fin fond de la campagne anglaise, dans une espèce d'isolement, ça s'appelle les rencontres Carnegie, et ça a lieu tous les ans. Les ministres de la recherche des principaux pays européens, des États-Unis, du Japon, de la Chine, du Brésil, se retrouvent pour parler effectivement des grands projets de recherche pour l'avenir. On essaye de jouer au maximum la coopération pour répondre aux grands enjeux qui menacent. Ah oui. Les enjeux, c'est la transition énergétique, c'est l'adaptation au changement climatique, c'est la lutte contre les pandémies, c'est l'accompagnement de l'allongement du temps de la vie. Donc ce sont des objectifs très concrets. Et il y a tout un terrain avant l'industrie où nous pouvons être en coopération, et nous essayons d'avoir ce qu'on appelle une feuille de route pour l'année à venir. On s'isole volontairement pour pouvoir réfléchir au fond. Il n'y a pas de compte rendu, donc la parole est très libre et c'est extrêmement intéressant.
Merci Geneviève Fiorazzo. Bonne
journée. Merci à vous.